Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur RMC. Vous avez bien fait de vous réveiller avec RMC. Enfin, vous réveillez, certains sont peut-être déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble le matin sur RMC. Géraldine Demory à mes côtés. Salut Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous.
Toute l'équipe déjà en régie. Margot, Anna, Fabien sont dans la régie. Nicolas attend vos appels au standard. Je le vois déjà, il est au téléphone. Au 32-16, vous appelez Nicolas et vous venez vous installer quand vous voulez autour de la table. C'est le principe de Charles Matin. Toute l'info, toute l'actu, de la bonne humeur. Ça se passe avec vous au 32-16. On a plein d'infos à partager avec vous ce matin, beaucoup d'actu. Alors d'abord, commençons par une bonne nouvelle, Géraldine. Ça y est, les Bleus sont qualifiés. Eh oui, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale
faire,
de l'Euro. Ouais, sans rien faire, en fait, c'est grâce à la victoire de l'Espagne contre l'Albanie. Bon, c'est un système un peu complexe de meilleur troisième, mais l'essentiel, c'est que c'est sûr, les Bleus seront en huitième. Mais il y a encore un dernier match décisif à jouer ce soir contre la Pologne pour savoir si les Bleus seront premier, deuxième, troisième de leur poule.
Ah oui, d'ailleurs, pour l'occasion, RMC vous prépare un dispositif spécial dès 17h. On sera en direct de Dortmund avec Rotten sans flamme. Coup d'envoi du match à 18h. Vous pourrez suivre tout le débrief dans l'after à partir de 20h. L'after qui sera en direct de Fougères, la ville du club formateur du milieu de terrain des Bleus, Eduardo Camavinga.
Ouais, super dispo ce soir. Et l'after chez Eduardo Camavinga. Bah, tiens, ce soir, France-Pologne, un petit prono, Géraldine.
Ouais, ils vont jouer la sécurité, un petit 1-0, histoire de.
1-0, donc victoire des Bleus quand même.
Oui, mais.
Bah, enfin, un but des Bleus.
Ouais,
enfin,
petite victoire des Bleus.
Allez, petite victoire des Bleus, nous dit Géraldine. Bah, vous aussi, tiens, vous partagez les pronos avec nous. A priori, Mbappé sur le terrain, masqué. Est-ce que les Bleus vont l'emporter ce soir? Dites-nous ce matin au 32-16. Et puis, autre sujet, l'actualité évidemment, c'est cette campagne des législatives qui est de plus en plus tendue. Aujourd'hui, on va parler au 32-16 de cette phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup réagir. La France risquerait la guerre civile, dit Emmanuel Macron, si les extrêmes arrivaient au pouvoir. Déclaration faite dans un podcast qui a été diffusé hier soir.
Et ça fait réagir, hein. À droite comme à gauche. Jordan Bardella réplique, un président ne devrait pas dire cela. Jean-Luc Mélenchon lui accuse Emmanuel Macron d'être toujours là pour mettre le feu.
Alors, est-ce que ça vous choque? Emmanuel Macron qui parle de risque de guerre civile. Est-ce que le chef de l'État va trop loin? Est-ce qu'il agite les peurs, comme le disent certains? Ou au contraire, pour vous, il a raison et vous redoutez un déchaînement de violence après les résultats du 7 juillet prochain? Vous sentez la tension monter? N'hésitez pas, venez nous dire au 32-16 ce matin, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de brandir cette menace de la guerre civile? Quel risque après le 7 juillet? Est-ce qu'il va trop loin avec ses mots? C'est vous qui allez prendre la parole ce matin, je dis au 32-16, mais il y a aussi Direct Studio, hein. Vous allez sur l'appli RMC, c'est l'onglet Direct Studio et avec Géraldine, on lit tous vos messages.
Ouais, je vois déjà qu'il y a Laurent, il y a Ludo, il y a Aïcha, il y a Philippe, voilà. Tout le monde est là ce matin.
Eh ben, vous êtes déjà là, n'hésitez pas, vous continuez à réagir, on a un programme très riche à partager avec vous.
Ben oui, tiens, dans Charles Matin, il y aura ma solution conso, début des soldes demain, mais il faut s'y préparer dès maintenant.
Ah bah oui, bah voilà, Géraldine nous prépare les soldes, il y aura de la tech, du sport, on parlera tiens dans la story sport tout à l'heure du retour en grâce d'N'Golo Kanté, nouveau patron des Bleus. On en reparlera tout à l'heure évidemment, l'Euro. Vous savez tout savoir dans un instant dans le journal de 5h. Thibaut Texer vient de s'installer. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu, c'est en direct, c'est votre journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Pont emporté, route inondée, une cinquantaine de personnes évacuées, nouvelle crue à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes, commune déjà marquée par le passage de la tempête Alex en 2020. Emmanuel Macron craint une guerre civile en cas de victoire des extrêmes, des mots du chef de l'État qui choque Jean-Luc Mélenchon, l'accuse de mettre le feu. Et puis les Bleus opposés à la Pologne ce soir, les Bleus assurés d'une qualification sans même avoir joué depuis hier soir. Les joueurs de Didier Deschamps viseront tout de même la première place de leur groupe.
D'importants dégâts dans la vallée de la Vésubie après de fortes intempéries.
45 personnes ont été évacuées à Saint-Martin-Vésubie hier soir sous les eaux, 4 ans après le passage de la tempête Alex qui avait détruit de nombreuses infrastructures routières. Pas de blessés, Clara Gabillet, mais des ponts reconstruits après 2020 qui ont été emportés par les flots.
Des ponts submergés, des routes barrées, des crues ont coupé l'accès au Boréon sur les hauteurs du village. Yvan Motet est le maire de Saint-Martin-Vésubie.
Avec l'orage qu'on a eu toute la journée, les eaux sont montées. Hein. C'est le phénomène des cuvettes. La rivière est passée par-dessus le pont d'entrée du Boréon. Et il y a de la boue, il y a de la terre, des cailloux sur la route.
La commune fait partie de celles durement touchées par la tempête Alex en 2020. La crue d'hier a emporté plusieurs ponts provisoires. Et ce n'est pas la première fois, déplore Thierry Ingigliardi, adjoint au maire en charge de la reconstruction.
Avec des pluies normales, on va dire, on a tout qui saute. Parce que les ouvrages définitifs ne sont pas faits. On n'est que sur de l'ouvrage provisoire. Maintenant, ça commence à suffire. Ça fait 4 ans qu'on est en galère. Les ouvrages ne sont pas terminés. On attend toujours quelqu'un. Et les gens, franchement, ça devient très compliqué.
Au total, 45 personnes évacuées ont passé la nuit dans des locaux mis à disposition par la mairie.
Clara Gabillet pour RMC. Emmanuel Macron divise après une nouvelle prise de parole. Hier, il craint un risque de guerre civile en cas de victoire des extrêmes. Des mots prononcés dans un entretien accordé à un podcast diffusé hier soir dans lequel il accuse le RN de renvoyer les gens à une religion ou à une origine, et les insoumis de proposer une forme de communautarisme. Propos très alarmiste, Romain Cluzel, aussitôt dénoncé par les premiers concernés.
À gauche comme à droite, les critiques pleuvent contre cette nouvelle intervention du chef de l'État. La députée sortante RN Edwige Diaz dénonce des propos irresponsables.
Emmanuel Macron est prêt à dire n'importe quelle bêtise, prêt à répandre n'importe quelle fake news pour essayer de sauver ce qu'il pourra sauver de son camp. Ses propos sont révélateurs de sa fébrilité et sont la démonstration qu'il perd pied.
Et sur le fond du propos du président, le communiste Yann Brossat renvoie l'accusation. La violence sociale, elle vient selon lui d'Emmanuel Macron.
C'est au contraire lui qui, depuis maintenant 7 ans, a semé le chaos dans le pays. Et je rappelle quand même que les Gilets jaunes, c'était pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Que nous avons aujourd'hui un pays qui est à cran, que nous avons des inégalités qui se sont accrues. Et ça, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron.
Le sénateur de Paris reproche aussi au président de ne pas appeler au Front Républicain face au RN, alors que des électeurs de gauche ont voté pour Emmanuel Macron lors des 2 dernières élections présidentielles.
Et vous nous dites ce matin au 32-16 si vous êtes choqué par les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que, pour vous, le chef de l'État va trop loin en brandissant la menace d'une guerre civile, ou au contraire, vous redoutez des violences, un embrasement du pays si le Rassemblement National ou si la France Insoumise accède à Matignon? N'hésitez pas à nous le dire ce matin. Vous venez témoigner au 32-16. On lit aussi tous vos messages sur Direct Studio.
Une campagne qui s'accélère à moins d'une semaine du scrutin. Gabriel Attal, Manuel Bompard et Jordan Bardella débattront ce soir sur TF1. Le président du RN qui présentait son programme hier. Baisse de la TVA, Big Bang de l'autorité à l'école ou encore un moratoire sur l'éolien. Il se dit prêt à gouverner. Matignon également dans le viseur du nouveau Front Populaire et Jean-Luc Mélenchon qui temporise sur France 2. Je ne suis candidat à rien, déclare le leader insoumis qui ne s'élimine pour autant pas de la course et se défend face à la levée de bouclier de la gauche qui lui demande de se mettre en retrait.
C'est odieux. Qu'ai-je fait ? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans mes propos, dans le combat que j'ai mené au fil d'une vie, qu'est-ce qui fait que je serai la personne qu'on ne désigne pas ? La jalousie. Pourquoi je serai le seul homme de gauche mis à l'oukaz par qui, s'il vous plaît ? Par M. François Hollande, qui a détruit la gauche ? Par qui ? Par M. Glucksmann, qui nous a battus de 3 points ? Je pense que je suis un atout. Parce que j'ai quand même fait 22%. Et les gens qui ont voté pour moi à la présidentielle ne sont pas des ahuris qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
Le prochain Premier ministre sera insoumis, déclare Jean-Luc Mélenchon, mentionnant 2 de ses lieutenants, Mathilde Panot et Manuel Bompard. Notre fille a vécu l'impensable. Pour la première fois, les parents de l'adolescente de 12 ans de confession juive violée à Courbevoie la semaine dernière prennent la parole. Dans une interview au Parisien, Julie Breuil donne des nouvelles de l'enfant et tente de comprendre les raisons du drame.
Oui, plus d'une semaine après les faits, ses parents décrivent impuissant le quotidien de leur fille aînée. Un quotidien rythmé par, je cite, des réminiscences, des flashbacks et des réveils nocturnes. Ses agresseurs lui ont volé son enfance, s'indigne le père de famille. Déjà quelques mois avant le drame, son épouse se souvient alors que leur fille avait été harcelée à l'école, victime notamment de blagues sur la Shoah après les attaques du 7 octobre. Ses parents lui avaient alors conseillé de rester discrète sur sa religion juive, un conseil qui aurait poussé leur fille à laisser entendre qu'elle était musulmane. À l'un de ses futurs violeurs. Quand il l'a appris, il en a déduit qu'elle était forcément pro-Israël et anti-palestinienne, déplore la mère de famille auprès de nos confrères du Parisien. Nous vivons un antisémitisme pesant. Notre fille, elle, l'a vécu dans sa chair, conclut finalement le père de famille.
Julie Bro, service police-justice RMC, il est 5h06. L'Italie sauvée in extremis à l'Euro, menée 1-0 hier soir face à la Croatie. La Squadra Azzurra égalise à la toute dernière seconde du match. Les champions d'Europe en titre se qualifient donc pour les huitièmes de finale. Ils éliminent au passage la Croatie. Dans ce même groupe, l'Espagne bat l'Albanie 1-0 et qualifie l'Angleterre, les Pays-Bas, mais aussi la France, assurée de terminer au pire meilleur troisième. Cependant, Luc Braillet, les Bleus opposés à la Pologne ce soir visent un peu mieux. Objectif, première place.
Et pour finir en tête de ce groupe, il faut battre la Pologne. Et pour battre la Pologne, il faut marquer au moins un but, voire en marquer plusieurs. Les Bleus doivent surtout reprendre confiance. N'Golo Kanté.
De se rassurer déjà en gagnant, en marquant, que c'est des matchs qui comptent, parce que la phase d'après, c'est des matchs, si on perd, c'est terminé. Donc se rassurer et prendre des automatismes ensemble, s'habituer à gagner, à marquer, ça peut que être utile pour la suite de la compétition.
Et la suite en terminant premier semble plus abordable qu'en finissant deuxième. Cela permettrait d'éviter la partie de tableau de l'Est. L'Espagne, l'Allemagne et le Portugal, potentiel adversaire des Bleus en quart de finale. Mais ne parlez surtout pas de ça à Didier Deschamps.
J'ai jamais voulu faire de calcul en disant tableau du bas, tableau du haut. J'aime pas ça.
Oubliez les autres équipes, ne pensez qu'à soi-même et mettre fin à cette statistique. Jamais depuis que Deschamps est sélectionneur, les Bleus n'ont gagné leur troisième match de poule dans un grand tournoi.
France-Pologne, c'est à 18h ce soir en direct sur AMC et même dès 17h avec Rotten sans flamme en direct de Dortmund. Le débrief dans l'after à suivre dès 20h. En direct de Fougères, ville du club formateur d'Eduardo Camavinga. Allez, on termine avec le biopic qui va retracer la vie de Johnny Hallyday. On connaît depuis hier le nom de l'acteur qui incarnera l'icône. C'est Raphaël Quenard. Révélation de Laetitia Hallyday hier à Paris Match. C'est elle-même qui a choisi le comédien. Ce dernier va s'immerger dans son rôle pour manger, boire et penser Johnny, déclare le réalisateur Cédric Jiménez. Sortie prévue le 8 décembre 2027, 10 ans après la mort du chanteur. Et pour les fans impatients, autre film, Que je t'aime, prévu en 2026, qui se situera autour des années 90, avec Mathias Schoenaert cette fois en tête d'affiche.
Ah, donc il y a deux biopics de Johnny, c'est ça? Et d'abord celui de Mathias, avec Mathias Schoenaert, ensuite celui avec Raphaël Quenard.
Ah, mais
en
2, 3 ans, 4 ans presque là,
ah oui, 2026. Ah oui, il y a faut tourner.
2 ans, 2026, déjà pour Que je t'aime le premier.
Ouais. Oui. Donc un par an en fait, à partir de 2026, les biopics de Johnny. C'était le journal de Thibaut Texer qu'on retrouve tout à l'heure à 5h30 en direct sur RMC. En attendant, à 5h09, on continue à lire vos messages sur Direct Studio. Tiens, à vous écouter au 32-16, je vois déjà Stéphane qui est là de bonne heure. Stéphane, depuis le Val d'Oise, c'est ça? Bonjour Stéphane.
Bonjour Charles et Géraldine.
Bonjour Stéphane.
Stéphane, je vous entends très loin, je ne sais pas si vous êtes sur un...
C'est vrai?
Ah, là, c'est beaucoup mieux, ça y est, c'est beaucoup mieux. On vous entend.
J'ai à peine bougé.
Salut Stéphane. Comment ça va? Eh ben nous ça va bien. Levé tôt pour le boulot là, vous bossez?
Oui, toujours.
Lève tôt, fidèle d'RMC, Stéphane.
Ouais, ah bah, forcément.
Et je suis sûr que vous suivez aussi l'Euro avec RMC. Ah bah c'est l'heure du prono, Stéphane. Ce soir, France-Pologne, 18h. Tiens, bah d'abord première question, Stéphane. 18h, vous serez sorti du boulot, c'est bon, vous pouvez regarder le match. Voilà.
Oui, tout à fait. Ça
demande un peu d'organisation pour certains, voilà, d'être prêt à 18h pour suivre le match. Je donne le, bah, évidemment, pour ceux qui seront pas encore rentrés à la maison, pas de problème, il y a RMC pour suivre évidemment le match en direct. Et le prono, Stéphane, ce soir, qu'est-ce que vous attendez des Bleus?
Bah, j'espère déjà un peu de buts quand même, qui nous arrive à nous marquer 2-3 buts quand même, ce soir.
Ouais, parce qu'on va rappeler que les Bleus n'ont pas encore marqué techniquement. Alors, ils ont marqué, ils ont gagné 1-0 contre l'Autriche, mais c'était un but contre son camp. Ensuite, il y a eu ce 0-0 contre les Pays-Bas. Ah bah oui, Géraldine, oui, il n'y a pas encore eu, il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui a marqué un but dans cet Euro. Donc il est temps ce soir, c'est ce que disait N'Golo Kanté, voilà, c'est aussi pour la confiance, parce qu'ils sont déjà qualifiés là, c'est surtout la confiance qui compte ce soir.
Bah bien sûr, bah oui, parce que là, le prochain match c'est les huitièmes, donc j'espère un petit peu plus de volume de jeu quand même, parce que, mais bon, on connaît Deschamps, hein. Deschamps c'est la Juve d'il y a 40 ans, hein. Oui. On bloque derrière et puis un but qui arrive, voilà, voilà, il joue comme ça, et puis c'est comme ça, mais bon, j'ai envie de dire un peu plus ce soir, parce que vendredi dernier c'était assez chiant, excusez-moi du terme, mais bon.
Oh, c'était animé, mais c'était frustrant en tout cas, il y a eu des occasions.
C'est vrai,
on va pas refaire le match, mais en effet, bah, vous avez raison, la méthode Deschamps de bien d'être solide derrière, là-dessus ça fonctionne. Le problème c'est quand il n'y a pas le petit but en plus derrière, bah oui, quand ça fait 0-0 à la fin, c'est très frustrant.
Quand il n'y a pas Kylian, ça manque un peu.
Bon, mais ce soir, il y a le retour de l'attaquant masqué, a priori, ça devrait rouler pour les Bleus, et puis je compte sur vous Stéphane pour suivre la soirée spéciale sur RMC, dès 17h, hein, Rotten sans flamme, et puis ensuite le match à Dortmund, France-Pologne, l'after aussi qui sera à Fougères, chez Eduardo Camavinga, bref, l'after, vous le savez, qui fait le Tour de France, qui va chez les joueurs, chez les Bleus, là où tout a commencé pour eux pendant cet Euro, on va vivre tout ça, journée spéciale encore sur RMC, journée qui démarre avec vous, Stéphane. Stéphane. Vous avez ouvert le 32-16 ce matin. Je vous souhaite bon courage pour le boulot, Stéphane.
Oui, vous aussi.
À très vite, Stéphane. Merci d'être passé. Ciao, Stéphane. Et vous faites comme Stéphane quand vous voulez. Un petit coup de fil à Nicolas au 32-16. Un petit message sur Direct Studio. Et hop, vous êtes en direct avec nous. Vous venez vous installer quand vous voulez autour de la table. Et puis à 5h11, on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Eh oui, tous les matins, si vous êtes bien attentif à toute l'info sur RMC, vous repartez avec des cadeaux. Mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Contre quel pays la France joue ce soir pour ses derniers matchs de poule de l'Euro ?
Bon ben, on fait facile parce qu'on vient d'en parler avec Stéphane. Coup d'envoi à 18h. Si vous connaissez l'adversaire des Bleus, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Et il y a un super radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
Allez, le radio réveil dernier cri, il est pour vous. Vous serez tiré au sort, vous serez en direct avec nous à 6h20 si vous envoyez tout de suite actu par SMS 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC Police Justice.
Et comme chaque matin, on retrouve le service Police Justice d'RMC pour une histoire avec Julie Brault ce matin. Bonjour Julie.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Ce
bonjour.
Matin, Julie, vous nous parlez de cet Anglais qui a fait une sacrée découverte en rentrant de l'étranger. Sa maison a été transformée en ferme de cannabis.
Oui, c'est un scénario qui a déjà inspiré de nombreux films, mais cette fois-ci, Charles Reeve l'a vécu grandeur nature. Il y a plusieurs mois, ce propriétaire anglais a dû s'absenter à l'étranger pour son travail. Il publie alors une annonce en ligne pour louer sa maison située à Londres, et très vite, un agent immobilier lui assure qu'il a trouvé des locataires, une famille avec enfants, bien sous tout rapport. Charles Reeve leur confie donc ses clés, l'esprit tranquille. Mais les mois passent et le loyer, lui, n'est jamais versé. Le propriétaire décide alors de rentrer chez lui et c'est là qu'il découvre l'envers du décor. Cuisine, salon ou encore salle de bain, toutes les pièces de sa maison sont transformées en ferme de cannabis. Dans sa chambre, plus de lit ou d'armoire à vêtements. À la place, il découvre plus de 10 tonnes d'engrais stockées sur le sol. Au plafond, une ventilation et des lumières tournent à plein régime, un système très élaboré pour maintenir de bonnes conditions de croissance pour les plantes. Au total, plus de 400 plants de cannabis ont été saisis pour une valeur estimée à plusieurs centaines de milliers de livres. Alors de leur côté, les narcotrafiquants qui ont pris la fuite ont laissé ce précieux chantier à son propriétaire qui déplore aussi de nombreux dégâts. Saleté, trous dans les murs, canalisations détruites, les réparations sont estimées à plus de 20 000 livres pour tenter de refaire de cette usine de cannabis une maison familiale.
Merci Julie. Le récit de Julie Brault, reporter au service Police Justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Rassemblement National et la France Insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Mais elles y répondent mal à mes yeux, parce qu'elles y répondent en accroissant la conflictualité et la guerre civile.
Guerre civile, expression lâchée hier par Emmanuel Macron, le président, qui accuse le RN de renvoyer les gens à une religion, à une origine, et de l'autre, la France Insoumise d'aller vers une forme de communautarisme. Et dans les deux cas, selon lui, les extrêmes, si elles arrivent au pouvoir, font courir à la France un risque de guerre civile. Cette expression n'a rien d'anodin. Est-ce que ça vous fait peur, tout simplement ? Est-ce que ça vous choque aussi, cette expression utilisée par Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il a raison, selon vous, de brandir cette menace de la guerre civile si le RN, si LFI accède au pouvoir ? Ou est-ce qu'au contraire, comme lui, vous redoutez une flambée de violence dans, n'hésitez pas à nous dire si le président vous a choqué en utilisant cette expression ou au contraire si vous estimez qu'il a raison de mettre en garde contre cette menace. C'est vous qui allez nous le dire au 32-16. On vous attend dans un instant en direct sur RMC. Et puis tout de suite, c'est RMC qui s'engage avec vous. Solène Leroux qui nous révèle ce matin un système de corruption qui sévirait sur le port de Saint-Tropez.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin. 5h15, bon réveil à tous sur RMC.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Solène Leroux qui nous rejoint ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Aujourd'hui, vous nous faites des révélations sur des soupçons de corruption dans le port de Saint-Tropez.
Si je vous dis Saint-Tropez, vous pensez plage privée, boîte de nuit branchée et yacht de milliardaire. Et ben, c'est précisément de ça dont je vais vous parler. Le port le plus prisé de la Côte d'Azur reçoit des milliers de plaisanciers chaque été. Et pour jeter l'encre dans cette baie mythique, en plus du prix de la réservation, un ex-agent portuaire dénonce des versements de pots de vin en liquide auprès de la capitainerie. Et c'est une information à RMC. Suite à sa plainte, une enquête a été ouverte il y a 2 semaines pour corruption, conduite par 2 brigades spécialisées à Saint-Tropez. Le lanceur d'alerte a accepté de témoigner en exclusivité pour RMC sous couvert d'anonymat.
Les capitaines montent, ça négocie et ensuite on confirme la place. En dessous de 1 000 euros d'espèces,
ils prennent même pas le bateau. Là, il y a un bateau qui dit avoir donné 5000 euros pour 3 jours et ça peut monter à 10-15 000 euros demandés pour rentrer au port. Après, ils cherchent toujours à savoir de quelle origine ils sont, donc si c'est des Arabes, si c'est des Russes, si c'est des Américains, parce que en fonction de la nationalité, ils vont demander plus ou moins.
Selon nos informations, la police enquête sur des agents de la capitainerie et de la mairie et le réseau serait même beaucoup plus vaste.
Qui passent par des intermédiaires, donc ça va être des concierges, ça va être des serveurs des grosses discothèques ou des grosses plages où il y a les milliardaires qui viennent. On sait tous ce qui se passe. Tout le monde a peur de perdre sa place, donc tout le monde se tait. Et puis certains en profitent et puis ça continue.
Et selon lui, ça fait des années que ça dure. Nous sommes également en contact avec un ancien élu de la ville qui dénonce les mêmes pratiques. C'est le procureur de la République de Draguignan qui est saisi de l'affaire. Il n'a pas souhaité la commenter, mais selon nos informations, des auditions ont déjà été conduites. Mais qui est impliqué? Où va l'argent? À qui profite-t-il? C'est à ces questions que l'enquête devra répondre.
En attendant, Solène, ces faits, s'ils sont avérés, ils sont extrêmement graves. Que répondent les principaux concernés?
Depuis 2010, le port de Saint-Tropez est géré directement par la municipalité. La capitainerie compte une quarantaine de salariés. Nous avons donc demandé des explications à la mairie dans un long courrier de 6 pages que nous avons reçu. Le cabinet de la maire d'Hiver Droite, en poste depuis 4 ans, s'est dit étonné et choqué par ces soupçons totalement infondés. La ville explique que le système de réservation des places au port rend le contournement impossible. Les demandes se font sur Internet. La traçabilité serait donc assuré. Et seul le directeur du port peut valider une demande de réservation. Les tarifs sont donc réglementés en fonction de la taille du bateau. Pour un yacht de 50 mètres au Vieux-Port, la place coûte environ 2000 euros par jour en pleine saison. Mais la capacité du port, 734 bateaux, est insuffisante pour faire face aux besoins. Selon nos témoins, c'est la loi de l'offre et de la demande qui favoriserait donc la corruption.
Mais on va voir ce que dit l'enquête, évidemment, sur ces faits. Sur ces soupçons de corruption. En attendant, comme ce lanceur d'alerte, si vous souhaitez contacter Solène, Amélie Rosic, toute l'équipe, une adresse mail RMC avec vous, @rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire ce matin si Emmanuel Macron va trop loin. Hier soir, dans un podcast mis en ligne, il a affirmé que les programmes du RN et de la France Insoumise mèneraient à la guerre civile.
Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on répond pas. Cela, je veux leur dire, message reçu. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair.
Une déclaration qui a évidemment fait réagir aussitôt. Jean-Luc Mélenchon accuse Emmanuel Macron d'être toujours là pour mettre le feu. Et Jordan Bardella, lui aussi, a répondu.
Un président de la République ne devrait pas dire cela. Mais ce sont eux qui font peur aux Français. On est là à la fin du mois de juin, à un an des émeutes qui ont frappé très durement l'ensemble des villes, y compris nos villages. Ma volonté, c'est de répondre aussi à cette demande d'autorité.
Voilà, Jordan Bardella hier soir chez nos confrères d'M6. Alors, est-ce que vous, ça vous choque qu'Emmanuel Macron brandisse le risque de guerre civile en cas d'accession du RN ou de la France insoumise au pouvoir? Ou est-ce qu'au contraire, pour vous, il a raison, il y a un vrai risque? N'hésitez pas à nous le dire. Ce matin, je vois, Jean-Yves qui nous appelle au 32-16. On part dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça, du côté d'Arles. Bonjour Jean-Yves.
Et bonjour Géraldine, bonjour Charles,
bonjour,
comment
Jean-Yves.
Ça va?
Ah ça va très bien et ça nous fait plaisir d'entendre votre pêche de bon matin Jean-Yves.
Je monte sur Paris, vous voyez, je suis en train de monter sur Paris là. Je suis à la gare d'Avignon de TGV pour monter sur la Défense. Donc voilà, je vais partir bientôt près de Paris.
Donc vous montez pour le boulot j'imagine si vous voulez.
Pour le boulot. Comme toutes les semaines.
Courageux du matin Jean-Yves, on est là pour vous accompagner même quand vous vous levez tôt. C'est pas trop... Alors, vous avez de la chance Jean-Yves, vous montez. Je sais pas si vous avez attendu depuis des semaines pour monter à Paris, mais alors c'est aujourd'hui qu'il faut monter au niveau soleil, beau temps, Géraldine.
Oui, je suis là depuis le mois de janvier toutes les semaines, je monte le lundi, je redescends le jeudi et effectivement j'ai vu la météo donc j'ai pas pris de veste aujourd'hui, j'ai pris un risque peut-être, je sais pas.
Voilà, parfait, ouais, exactement. Alors Jean-Yves, rentrons dans le vif du sujet. Emmanuel Macron qui dit attention, si les extrêmes arrivent au pouvoir, c'est la guerre civile. Est-ce qu'il va trop loin en brandissant cette menace?
Qu'est-ce que je vous dis? Au plus c'est gros, au plus ça passe, j'ai l'impression, avec Macron. De toute façon, depuis le début de sa mandature, c'est comme ça. Depuis 7 ans, c'est comme ça. On est habitué de tout ça, ces déclarations. C'est un gars qui est égocentrique et qui n'a pas d'humilité. Donc, à un moment donné, il perd les élections, il chute, donc il entraîne tout le monde dans sa chute, quoi. Il essaye, en tout cas.
Pour vous, c'est un signe de panique quand on en arrive à sortir.
Il maîtrise plus rien, là. De toute façon, il navigue à vue depuis sa deuxième mandature. dire, il navigue à vue, hein, puisqu'il n'a pas eu la majorité absolue. Donc forcément, ils ont fait que du rabibochage. Et voilà, donc puis quand on entend, ben moi j'ai entendu, je crois que c'est Barrot, un de ses candidats là, sur, à la télé, dans ses déclarations, on va mettre ça en place, ça en place. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 ans, les gars?
Ah, ça, c'est le problème. Oh voilà, ils ont un bilan, donc c'est compliqué ensuite de
je
se
vous
renouveler.
Signale,
mais non,
Charles,
mais Jean-Yves, revenez.
Juste un truc. Oui. Juste un truc, s'il vous plaît. Macron s'est fait élire en disant qu'il allait rayer le Rassemblement National de la scène politique française.
Ah, bah, là,
mais
c'est
vous voulez aujourd'hui?
Oui, oui, bien sûr. Mais Jean-Yves, sur le risque de guerre civile, en tout cas de violence, si la LFI ou si le Rassemblement National, qui est en favori aujourd'hui des sondages, arrive au pouvoir, est-ce que vous craignez, je sais pas, des manifestations, des débordements, des violences? Cette violence, on sait qu'elle est dans le pays. On a vu des manifestations violentes, des violences tout simplement. Il y a eu les émeutes, il y a eu les gilets jaunes. On sait qu'il y a une violence sous-jacente dans le pays. Est-ce que on peut redouter qu'elle éclate si LFI ou le RN arrive au pouvoir?
Vous venez de parler de violences qui ont eu lieu pendant ces 7 années. Avec qui au pouvoir?
Et oui, Macron. Et c'est vrai. Et voilà. C'est vrai.
Donc il va donner des leçons à qui, ce monsieur?
C'est vrai.
Et je ne sais pas. Moi, je ne crains pas du tout. Alors après, personne ne souhaite des violences, qu'on soit bien clair. Personne.
Non, mais...
Moi, je vous le dis personnellement, pour moi, l'arrivée du RN au pouvoir serait une catastrophe en France. Ça serait une catastrophe. Mais je veux dire, je ne pense pas non plus que le RN appelle un soulèvement, une guerre civile, ou que chaque camp s'affronte dans ce genre, dans cette perspective-là, je pense pas qu'on en soit capable. Après qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des mouvements comme les gilets jaunes qui ont été fortement réprimés, qui ont été sous l'ère de Macron, faut dire ce qui est, hein, voilà.
Là-dessus, vous avez raison, Jean-Yves. Là aussi, quand il pointe les menaces, il y en a eu aussi de la violence sous son quinquennat. Et vous avez, oui, on entend bien, Jean-Yves, que pour vous, c'est compliqué pour le camp macroniste aujourd'hui de se renouveler dans les propositions, de dire attention, ça va être la catastrophe. Si c'est pas le camp macroniste qui renouvelle le pouvoir, sauf que vous le dites, Jean-Yves, les violences, elles ont déjà existé ces dernières années. Merci Jean-Yves d'être passé ce matin au 36. C'est très intéressant de vous entendre.
Vous.
Et puis, bon voyage, c'est ça. Hein.
Merci. Et puis, de toute façon, je suis souvent sur l'after. Donc,
voilà. Voilà, belle montée à la capitale. Bon courage. On vous accompagne aussi dans le train ce matin. C'est la magie de l'appli RMC. Mais oui, on vous suit partout, à la maison, dans le train, à la voiture. On est tous ensemble. Et vous faites comme Jean-Yves ce matin. Venez nous dire. Jean-Yves estime qu'Emmanuel Macron panique un peu là, dans la dernière ligne droite de cette campagne, et donc à tort de brandir cette menace de guerre civile. Est-ce que, au contraire, vous estimez qu'il a raison et qu'il y a un fort risque de violence dans le pays en cas d'accession du RN ou de LFI au pouvoir? Vous faites comme Jean-Yves, vous venez nous le dire. Ça se passe au 32-16.
RMC, Charles Matin.
Allez, dans 5 minutes, c'est le journal de 5h30 avec à la une. Tiens, les supporters français qui s'organisent pour soutenir les Bleus à distance ce soir. Mais oui, vous le savez, ce soir, c'est France-Pologne à 18h à vivre sur RMC.
Et puis à 5h40, ce sera toute la bande de Charles Matin qui va nous rejoindre. Anthony Morel pour C'est déjà demain, Jordan Olivier pour la Story Sport et le retour en grâce, tiens, d'N'Golo Kanté.
Mais tout de suite, Géraldine, ta solution conso.
Tu sais que les soldes démarrent demain,
oui.
Mais c'est aujourd'hui qu'il faut s'y préparer.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h26 et comme chaque matin, Géraldine s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Et demain, ce sont les soldes qui débutent, Géraldine, mais tu nous dis qu'il faut préparer dès aujourd'hui ces soldes. Il faut s'y mettre dès ce matin pour être sûr de faire de bonnes affaires demain.
Bah oui, aujourd'hui, c'est peut-être la journée la plus importante. C'est la fameuse journée de repérage. Parce que normalement, à partir de demain, vous allez trouver sur les étiquettes trois choses. Le prix d'origine barré, qui correspond au prix le plus bas constaté sur les 30 derniers jours. Le montant de la réduction en pourcentage et le prix soldé, donc celui que vous allez payer. Alors ça, c'est la théorie. Mais pour être sûr que ce soit bien respecté, vous avez intérêt vraiment à faire un repérage avant et noter les prix des articles qui vous intéressent pour être sûr que la réduction est réelle. En revanche, ça ne sert à rien de planquer la chemise que vous convoitez. Hein. Elle sera remise à sa place avant le retour au magasin.
Et alors, si je me plante ensuite, est-ce que je peux échanger un article pendant les soldes?
Alors, dans certains cas, oui. En fait, l'article soldé va avoir exactement les mêmes garanties qu'un article classique. Donc, il peut être échangé ou remboursé s'il a un défaut. Mais si tu t'es trompé de taille ou que tu n'aimes plus la couleur, là, il n'y a pas d'obligation de le reprendre. Ça, c'est si vous vous déplacez en magasin. Si vous achetez en ligne, vous avez automatiquement un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du colis. Donc là, si vous changez d'avis, vous pouvez renvoyer l'article sans vous justifier, solde ou non. Le vendeur sera obligé de vous rembourser ou de proposer un autre article. En revanche, attention sur Internet, hein, les arnaques sont bien plus fréquentes que dans les magasins physiques. Donc, essayez de comparer les prix sur les différents sites sans vous fier seulement au prix barré ou encore à une mention exclue web qui est souvent mensongère. Attention aussi aux frais de livraison et de dossiers qui peuvent faire gonfler la note et annuler complètement la ristourne.
En attendant, à l'heure d'Internet et on achète de plus en plus de vêtements en ligne, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes affaires à saisir là, pendant les soldes, notamment dans les magasins?
Bah oui, parce que contrairement aux autres opérations commerciales comme les ventes privées ou le Black Friday, les soldes, c'est le seul moment de l'année où les magasins ont le droit de vendre à perte. Donc en théorie, vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. Et puis il y a un gros stock d'affaires d'été à écouler, hein, vu la météo de ces dernières semaines. Simplement, prenez votre temps. Hein. C'est pas la première semaine que vous ferez, que vous aurez les meilleurs réducs. La deuxième semaine, c'est la plus intéressante pour certains articles comme les enceintes, les barres de son, les frigos, les micro-ondes. Mais c'est sur la quatrième semaine que vous aurez les meilleures réductions sur tous les produits les plus chers et les produits de mode.
Donc aujourd'hui, repérage, mais les achats, c'est dans 4 semaines, si je
c'est
te suis.
C'est ça.
Les bons conseils de Géraldine à retrouver quand vous voulez en podcast, hein, la solution conso. C'est aussi sur l'appli RMC. 5h29, on va tout de suite sourire. On va se faire plaisir, c'est notre rendez-vous avec le meilleur d'Arnaud de Manche. Arnaud, qui est revenu sur tous ces députés macronistes qui ne mettent même plus la photo d'Emmanuel Macron sur leurs affiches.
C'est devenu un repoussoir. Alors que Jordan Bardella, il pourrait poser avec Klaus Barbie, les gens s'en foutent. D'ailleurs, on ne dit plus majorité présidentielle, on dit bloc central. Oui. Ça leur fait une campagne difficile aux pauvres députés. Ils jouent à ni oui, ni non, ni Macron. Alors, on est là, vous soutenez Emmanuel Macron, oui ou non? Écoutez, je ne sais pas qui est ce Raphaël Masson dont vous me parlez. Moi, je soutiens un projet, oui, celui d'Emmanuel Macron. Celui d'un monsieur qui vit dans un palais, dans le centre de Paris.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct dans Apolline Matin, RMC 5h30.
RMC Charles Matin.
Excellent réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble le matin pour toute l'info sur RMC avec Thibaut Texer pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'ambiance monte doucement à quelques heures maintenant de France-Pologne. Troisième match pour les Bleus à l'Euro. Coup d'envoi 18h des Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à l'Espagne. Je ne suis candidat à rien. Jean-Luc Mélenchon tente de calmer les choses alors que beaucoup à gauche lui demande de se mettre en retrait à 5 jours du scrutin législatif. Et puis le groupe Stellantis, mis en demeure par l'UFC Que Choisir, qui donne un mois aux constructeurs pour trouver des solutions aux clients appelés à ne plus utiliser leur véhicule en raison d'airbags potentiellement dangereux.
C'est fait, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, sans même avoir joué.
Et c'est la conséquence de la victoire de l'Espagne, 1-0 face à l'Albanie hier, premier de leur groupe avec 3 victoires, qualification également de l'Italie. Miraculé, mené 1-0, les Italiens égalisent à la 98e de jeu, ils éliminent la Croatie, pour autant les Bleus qualifiés, donc assurés de terminer meilleur 3e, viseront la première place ce soir face à la Pologne. Coup d'envoi 18h, un horaire inhabituel qui oblige les supporters à s'organiser. Reportage à Bordeaux, Pierre Bourgès.
Pas question de rater le match pour Baptiste, il travaille aujourd'hui. L'horaire ne l'arrange pas vraiment, mais il va se débrouiller.
On va raccourcir la pause du midi de façon à prioriser les tâches les plus importantes et à 17h45 être prêt devant la Marseillaise avec la citronnade et les maillots sur les épaules.
L'objectif pour lui, c'est de sortir de ses phases de poule avec le sourire.
Il y a la première place à aller chercher pour la suite de la compétition. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au mois de juin, l'équipe de France, c'est la fête, c'est les apéros, c'est le soleil.
Même constat pour son ami Alexandre.
C'est l'occasion d'ouvrir quelques bières en fin de journée. À 18h, c'est idéal. Donc, on peut partager un petit moment collectif tous ensemble.
D'autant qu'avec le retour du soleil, Maxime aimerait bien trouver une place en terrasse pour regarder le match.
C'est le cocktail gagnant en terrasse, copains. Le soleil, l'été qui arrive, ça serait bonheur.
Mais il va falloir s'y prendre tôt, prévient Gaëtan Adban, patron de bar, parce que la météo à Bordeaux aujourd'hui, c'est
32 degrés, c'est simple. Donc, il y aura beaucoup de monde. On sera staffé comme pour un match à 21h. Ce sera pareil, du coup. C'est un match de la France, quoi. Donc, il faut qu'on assure.
Lui attend 400 personnes dans son bar, le double d'une journée habituelle.
Et pour assurer, Didier Deschamps devrait effectuer quelques changements ce soir, peut-être pour tenter d'animer davantage le jeu des Bleus jugés ennuyeux. Un sujet qui irrite le sélectionneur. Écoutez.
C'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on s'est procurées. Après, vous faites les commentaires que vous voulez, les uns et les autres. On a au stade un soutien populaire et puis plus de 10 millions à chaque match. Je pense que si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. Hein. C'est plus facile à la maison. Quoi. Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, ils restent des débuts jusqu'à la fin.
Et France-Pologne, coup d'envoi 18h sur AMC dès 17h avec Rotten sans flamme spécial depuis Dortmund, suivi de l'after en direct de Fougères, ville du club formateur d'Eduardo Camavinga. Il est 5h33, vous écoutez RMC, les programmes des extrêmes conduiront à la guerre civile. Nouvelle prise de parole décriée d'Emmanuel Macron à quelques jours du scrutin législatif dans une interview accordée au podcast Génération Do It Yourself. Hier soir, le chef de l'État renvoie dos à dos RN et Nouveau Front Populaire, la gauche qui continue de se déchirer autour du futur Premier ministre en cas de victoire. Sur France 2, Jean-Luc Mélenchon déclarait hier avoir l'intention de gouverner samedi dernier, mentionnant à tenter de temporiser, estimant Sébastien Krebs ne pas être éliminé de la course à Matignon.
« Je ne demande rien », répète Jean-Luc Mélenchon. « Je ne m'impose pas », dit-il, « candidat à rien », mais tout en continuant à vanter son expérience. « Je ne suis peut-être pas le moins mal placé, je suis un atout », et accusant les autres de jalousie, car ses alliés du Nouveau Front Populaire font bloc. Personne ne peut s'autoproclamer Premier ministre, il n'est pas le leader, estime d'une seule voix le PS, le PCF et les écolos. Mais la méthode n'a toujours pas été tranchée pour désigner un éventuel chef de gouvernement. Les insoumis refusant un vote, ils ne veulent pas renoncer à Mélenchon, décrypte un cadre écologiste. L'insoumis va continuer d'ailleurs d'être très présent dans les médias, sauf dans les débats que les chefs de parti se sont partagés. L'insoumis Manuel Bompard conservant tout de même le premier et sans doute le plus regardé ce soir.
Un débat sur TF1 avec Manuel Bompard et donc Gabriel Attal, mais aussi Jordan Bardella, qui se dit prêt à gouverner. Le président du RN présentait son programme hier matin. Parmi les mesures présentées, il y en a une qui fait débat. Jordan Bardella dit vouloir empêcher les Français qui ont une autre nationalité d'occuper des emplois extrêmement sensibles, mesure inapplicable pour la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina.
Il n'existe que des nationaux ou des non-nationaux dans notre droit. Un binational est un national comme un autre, puisqu'il est français. Donc, encore une fois, ça signifie qu'on distingue dans les Français suivant qu'ils ont une ou deux nationalités. Et ça, le Conseil constitutionnel considère que c'est contraire au principe d'égalité. Pour lui, il n'y a aucune différence entre un Français naturalisé, etc., entre les différents modes d'acquisition de la nationalité. Donc, la distinction viole le principe d'égalité.
Du nouveau, dans l'affaire des airbag défectueux des voitures du groupe Stellantis mises en demeure par l'UFC Que Choisir, Martin Cadoré, l'association de consommateurs réclame aux constructeurs automobiles des solutions concrètes aux clients concernés, propriétaires de C3 et DS3 en cours de rappel.
Oui, l'association de consommateurs estime à 200 000 le nombre de conducteurs sur 250 000 qui n'ont pas à ce jour pu bénéficier de véhicules de substitution malgré l'injonction de Stellantis qui leur demande de laisser leur véhicule au garage. L'UFC demande donc à la firme de leur trouver une solution systématique et efficace. Deuxième demande, donner à chaque client une date de réparation de son véhicule dans les 3 mois maximum, car l'association dit recevoir des milliers de messages de consommateurs exaspérés dans le flou, faute de retour de la part de Stellantis. L'UFC Que Choisir donne donc 1 mois à l'entreprise pour répondre à sa mise en demeure. Magali Butard est responsable du service juridique de l'association.
Si effectivement on n'a pas de réponse satisfaisante, on mettra en place les actions qui s'imposent pour que les demandes qu'on formule aujourd'hui à travers cette mise en demeure soient portées devant un juge.
De son côté, Stellantis affirme mettre tout en œuvre pour proposer des solutions. 3000 véhicules de courtoisie supplémentaires doivent d'ailleurs être disponibles à la fin de la semaine pour atteindre courant juillet un total de 35 000 véhicules prêtés.
Julian Assange est libre. Le fondateur de Wikileaks a quitté le Royaume-Uni et la prison de haute sécurité près de Londres dans laquelle il était incarcéré depuis 5 ans. Cela fait suite à la conclusion d'un accord de plaidé coupable avec la justice américaine qui avait décidé de poursuivre l'Australien pour avoir divulgué des centaines de milliers de documents confidentiels. Et puis l'OM confirme un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club finalise l'arrivée de l'entraîneur italien et de son staff. Allez, je vous en parlais il y a quelques jours. Ce mangeur de hot dog exclu du plus grand concours en la matière pour avoir fait la promotion de saucisses vegan.
Ah oui.
Vous vous en souvenez, Joey Chestnut va rebondir sur Netflix à la rentrée. La plateforme va diffuser un concours du plus gros mangeur de l'histoire opposé à l'un de ses rivales, le japonais Takeru Kobayashi, lui aussi exclu du célèbre concours en 2010 sur fond de contrat d'exclusivité. Alors mangez vite et beaucoup, ça rapporte, puisque Joey Chestnut aurait gagné plusieurs millions de dollars depuis ses débuts en 2005. Parmi ses exploits, près de 3 kilos de beignets d'asperges avalés en 11 minutes, 141 œufs durs en 8 minutes, ou encore 52 cheeseburgers en 10 minutes. Autant autant savourer quand même.
Bah oui.
Je sais pas si j'ai envie de regarder ça en plus. On aura forcément c'est envie de faire la pub.
Autant qu'il trempe en plus le hot dog dans l'eau pour le poids.
Ah ouais, il y a un côté gaspillage là-dedans. Et je suis pas très à l'aise avec.
Même pour la santé, pour rien, ça marche pour rien du tout.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu écœurant comme principe?
Oui, c'est écœurant.
Allez, on y va. Les courses, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil aujourd'hui.
13h55 sur RMC Découverte. Le 15, Henri Brulard est le favori de la Dream Team RMC. Oui, c'est lui. Son outsider, c'est le 17, Goliath. Le 15 et le 17.
C'est noté, c'était le journal complet de Thibaut Texer à 5h38 sur RMC. Tiens, on va aller faire un tour sur Direct Studio, Géraldine. Que disent les leftos? Quels sont les messages ce matin?
Vous êtes vraiment divisés ce matin. Emmanuel Macron qui parle de guerre civile si le Rassemblement National ou LFI arrivait au pouvoir. Alors vous êtes franchement pas d'accord. Pour Dylan, le président va trop loin. Pour Fabien, au contraire, Emmanuel Macron a raison si l'un de ces deux partis gagne. Beaucoup de citoyens honnêtes risquent ne vont pas accepter en fait cet état de fait. Pour Sam, très souvent en désaccord avec Macron, mais là il a entièrement en raison. Le RN, c'est la haine. Alors que Christine, pour elle, M. Macron veut faire peur pour montrer qu'il n'y a que lui qui peut sauver la France.
Mais est-ce que ça vous choque, Emmanuel Macron, qui brandit la menace de guerre civile, ou au contraire, est-ce qu'il a raison d'alerter sur ces risques? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on continue à en débattre, et puis à 5h39, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Oui, tous les matins, vous suivez toute l'actu sur RMC, et bien vous êtes récompensé, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Pas très difficile ce matin. Contre quel pays la France joue ce soir pour son dernier match de poule de l'Euro?
Coup d'envoi 18h sur RMC.
Vous
connaissez l'adversaire des Bleus, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Et ça vaut le coup parce qu'il y a un très joli radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort.
Bien, soyez rapide, actu par SMS au 732-16, le gagnant ou la gagnante en direct avec nous à 6h20.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
Les indiscrets RMC.
Et les coulisses de la campagne des législatives avec Sébastien Krebs du service politique. Bonjour Sébastien.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Alors ce soir, premier débat à la télé de ces législatives, ce sera sur TF1 avec un grand absent, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, un grand absent mais qui risque d'être bien présent dans les échanges et d'être la cible des feux croisés de Gabriel Attal et Jordan Bardella, deux candidats au poste de Premier ministre qui estiment tous les deux que leur concurrent, c'est bien lui, Jean-Luc Mélenchon. Qu'il vienne débattre plutôt que d'envoyer son porte-parole, a déjà lancé Gabriel Attal, car c'est l'insoumis Manuel Bompard qui représentera le nouveau Front populaire ce soir, faute d'accord sur un nom pour Matignon. Les quatre chefs de parti se sont partagés les débats après des négociations. À LFI, la plus grosse audience sur TF1, le PS ira sur France 2, les écolos et communistes sur les chaînes info. Quatre représentants au risque de se contredire. La base, c'est l'accord signé, insiste leur entourage, même si certains désaccords, sur le nucléaire notamment, n'y sont pas tranchés. Quatre chefs qui font savoir qu'ils se parlent tous les matins pour se coordonner. Côté Rassemblement National, on veut s'afficher en confiance avant ces débats. On déroule notre campagne, fanfaronne même un proche. En fait, c'est surtout le camp présidentiel, distancé dans les sondages, qui joue gros. Il faudra attaquer les deux fronts, juge une députée sortante qui espère une confrontation sur le fond. Détachée, dit-elle, cette campagne de l'irrationnel et de la colère, projet contre projet.
Merci Sébastien. Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h20, ça y est, la bande est là, réunie autour de la table. Je sais que vous les attendez, ils ont plein d'infos à partager. La Story Sport, Jordan Olivier, salut Jordan.
Salut, on va parler du vrai patron de l'équipe de France. Pas Mbappé, pas Griezmann, mais N'Golo Kanté.
Le bonus, Géraldine.
Je vous dis tout ce que vous allez trouver dans le prochain album de Julien Doré. Il y a des choses assez surprenantes.
L'intelligence artificielle au programme. C'est déjà demain avec Anthony Morel.
Ouais, une histoire qui n'est pas d'une gaieté folle, mais qui est diablement intéressante. L'IA qui fait parler les morts.
Et puis on va accueillir, tiens, Julien au 32-16, Emmanuel Macron qui parle d'un risque de guerre civile. Et bien ça ne choque pas Julien, il est avec nous, il s'installe autour de la table dans la bande au 32-16, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Charles Magnin.
À 5h43, la bande est là. Anthony Morel pour la tech, Géraldine pour le bonus avec Julien Doré. J'ai hâte d'être surpris par le nouveau Julien Doré. Jordan Olivier est là pour nous parler des Bleus. Tiens, N'Golo Kanté, le taulier du milieu ce soir encore une fois face à la Pologne. Mais tout de suite, c'est Julien qui nous rejoint au 32-16 depuis Montpellier. Salut Julien.
Ouais.
Bonjour à tous.
Salut Julien,
infirmier, levé tôt, ouais. Fidèle d'RMC. Et Julien, ce matin, ce qui fait beaucoup réagir, c'est ce terme employé par Emmanuel Macron hier. Il a parlé d'un risque de guerre civile. Alors pour ceux qui se réveillent, qui n'auraient pas entendu le chef de l'État, c'était dans un podcast Génération Do It Yourself diffusé hier soir. Je vous propose qu'on réécoute le chef de l'État.
Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on ne répond pas. Cela, je veux leur dire, message reçu. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair.
Alors Julien, en résumé, Emmanuel Macron dit, si LFI ou le RN accèdent au pouvoir, il y a un vrai risque de guerre civile en France. Est-ce que c'est choquant ou est-ce qu'il a raison d'alerter?
Sur le fond, il n'a pas tort. Après, est-ce qu'il y aura vraiment une guerre civile? Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais quand on joue avec le feu des extrêmes, tôt ou tard, on finit par se brûler. Hein.
Oui, mais alors certains diront, tout à l'heure, on avait Jean-Yves qui disait, attendez, des violences, on en a vu il y a un an, quasiment jour pour jour, il y avait des émeutes partout en France après la mort du jeune Naël. Il y a eu les gilets jaunes aussi, avec beaucoup de scènes de violence. Voilà, il y a un côté, on n'a pas attendu le RN ou LFI pour qu'il y ait de la violence partout en France.
Oui, mais ça, c'est que ce soit les gilets jaunes ou les émeutes en banlieue, c'est les cancers de la société française. On est en train d'en payer les métastases. Voilà, c'est pas... Donc voilà, maintenant, les Français veulent les extrêmes, ils auront les extrêmes, que ce soit l'enveloppe, de toute façon, c'est pareil. C'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est le frère et la demi-sœur. Donc voilà, s'ils veulent jouer avec les extrêmes, il faut les laisser se brûler.
Oui, mais donc pour vous, il y a un vrai risque, Julien.
Ça vous fait ça. Mais Julien, parce que si les Français veulent les extrêmes, qu'est-ce qu'on peut y faire?
Oui, mais dans les sondages, oui, les Français n'ont pas forcément peur du RN ou de LFI. Vous voyez ce que je veux dire? Vous nous dites.
Oui, mais ils se rendent pas compte. Hein. Mais vous, il y a Bolsonaro, il y a Trump, il y a Poutine. Même dans l'histoire auparavant, on a vu ce que ça donnait, les extrêmes. Hein,
Mais j'entends bien que vous, ça vous inquiète.
Enfin, plutôt que de lire des articles sur des sites complotistes, il faudrait nous ouvrir les livres, certains Français.
Oui, mais Julien, vous êtes Français aussi. Donc voilà, vous pour votre part, en tout cas, j'entends que ça vous inquiète, l'arrivée des extraits au pouvoir. Vous dites, on va laisser les Français se débrouiller.
Mais vous en faites partie. Je suis député de l'état intellectuel du pays.
Dépité plus qu'inquiet, c'est ce que j'entends avec vous ce matin, Julien, mais en tout cas pas choqué forcément par les propos d'Emmanuel Macron. Certains disent il est en train de paniquer là dans la dernière ligne droite, donc il agite les peurs, il veut faire peur aux électeurs.
Peut-être qu'il est en train de paniquer. Moi honnêtement, je suis Macron, je démissionne et je laisse le pays, les Français se débrouiller avec les extrêmes.
Ah oui, vous voulez qu'il abandonne carrément, qu'il jette l'éponge?
Honnêtement, c'est assez fake. Je serai à sa place, c'est mon bassin. Moi, je vais aider pendant les
jeux aux autres. Je vous entends un peu loin, Julien, mais je vais rappeler aussi que dans sa lettre adressée aux Français publiée hier matin, il précise bien qu'il s'engage à présider jusqu'en 2027. Justement, il écarte l'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron, mais même en cas de blocage à l'Assemblée après les élections du 7 juillet. En revanche, oui, il brandit désormais cette menace de la guerre civile si les extrêmes, comme il dit, arrivent au pouvoir. Merci, Julien, d'en témoigner. Bon, en tout cas, à l'heure où on entend que le pays est fracturé, qu'on en est à parler de guerre civile, qu'il y a une tension dans cette campagne, heureusement, il y a un sujet qui réunit les Français en ce moment, c'est le maillot, c'est l'amour des Bleus. Oui, non mais oui, Jordan me voit arriver avec mes gros sabots, mais oui, on va parler de cette équipe de France. Il y a un sujet qui enthousiasme les Français, il faut en parler parce que c'est aussi l'actu du jour. À 18h ce soir, les Bleus affrontent la Pologne. Alors je vais donner l'info, les Bleus sont qualifiés depuis hier soir, grâce à l'Espagne. Alors c'est un système très compliqué de meilleur troisième.
Mais la France est assurée de terminer meilleur troisième grâce à la victoire de l'Espagne, effectivement.
Voilà, Jordan le dit beaucoup mieux que moi, mais au moins c'est clair. L'enjeu ensuite, c'est de finir premier du groupe. Ça se joue ce soir face à la Pologne à 18h. Et Didier Deschamps pourra compter sur un joueur en particulier, un joueur qui nous avait manqué.
Comment il s'appelle? Kanté, N'Golo N'Golo Kanté, comme dirait la chanson. Le milieu de terrain de 33 ans est le joueur de ce début d'Euro côté bleu, avec ses qualités sur le terrain qu'on aime tellement, son endurance, sa générosité, sa capacité de se projeter. Homme du match face aux Pays-Bas vendredi dernier, homme du match face à l'Autriche quelques jours auparavant, Didier Deschamps qui, justement, après cette rencontre, ne tarissait pas d'éloges sur son joueur.
Il n'y a qu'à regarder ce qu'il a fait. Voilà. Je l'ai pris pour ça. Il a l'intelligence, sur le plan tactique, la capacité à récupérer des ballons, à se projeter. Il est rayonnant. Il a rayonné.
Le rayonnant a rayonné. Oui, c'est du Dédé dans le texte. Didier Deschamps très élogieux. Pourtant, le retour de Kanté n'était pas forcément attendu.
Oui, c'était en quelque sorte la surprise du chef Dédé. Kanté sélectionné pour l'Euro après 2 ans d'absence. Personne ne l'avait vraiment vu venir car depuis l'année dernière, il joue à Al Ittihad en Arabie Saoudite, un championnat, il faut bien le dire, mineur. Et sélectionné en équipe de France un joueur qui n'évolue pas en Europe, c'est extrêmement rare. Avant lui, seul André-Pierre Gignac avait été convoqué alors qu'il portait les couleurs des Tigresses au Mexique. Mais Kanté vient de boucler une saison plutôt convaincante, 43 matchs disputés, il a prouvé qu'il avait de nouveau sa place et il savourait hier en conférence de presse.
Franchement, c'est savoureux, ça fait plaisir de retrouver le maillot, les supporters, la compétition, de recevoir pas mal d'éloges et de soutien. Faut pas trop écouter, continuer le travail, être ensemble le plus fort possible pour réaliser la meilleure compétition.
C'est ça aussi Kanté, on lui pose une question sur son ressenti, sur ses performances. Il pense tout de suite au collectif. Je vous le dis, N'Golo c'est un joyau. On espère qu'il brillera en bleu, et bien le plus longtemps possible.
Bah, le patron des Bleus. Patron. Alors, il n'avait pas. Ah bah oui, clairement non.
Complètement.
Surtout, il faut entendre le sélectionneur, mais aussi ses coéquipiers parler de lui. Personne ne tarit d'éloges sur N'Golo Kanté. Maintenant, il n'y a plus qu'à marquer. Et ça, c'est pas le boulot de Kanté. C'est plutôt devant que ça se joue. Bah tiens, Julien est toujours avec nous au 32-16. Julien, oui. Bah, c'est l'heure du prono. France-Pologne ce soir, 18h.
1-0 pour la France.
Un petit 1-0. Et ouais. Avec un but marqué par les Bleus, parce que pour l'instant, aucun joueur français n'a marqué dans cet Euro.
Ouais, but de Griezmann, si Mbappé doit jouer ou pas ?
Mbappé devrait être titulaire, aligné par Didier Deschamps. A priori, ce n'est pas le cas d'Antoine Griezmann qui pourrait être préservé en vue des huitièmes de finale.
Ah, donc faut revoir le prono là, Julien.
Bon, ben je vais changer et mettre Mbappé si Mbappé.
Julien, mais une question sur Mbappé. Pour
Mbappé
ce soir.
De la tête, c'est la grosse cote.
Voilà, l'attaquant masqué, voilà, qui marque.
Et avec
ce
quelle
soir.
Couleur le masque là, on sait ou pas pour ce soir ?
Ça sera un masque de couleur noire, puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser un masque de plusieurs couleurs, bleu, blanc, rouge. Ça, c'est interdit. Il faut que ça soit uni. Donc, ce sera noir ce soir.
Le masque noir a été homologué pour Mbappé, voilà, version Zorro. Anthony Morel, avec toi, une histoire ce matin et une question. L'intelligence artificielle va-t-elle nous permettre d'atteindre une forme d'immortalité numérique ? Tu nous racontes l'histoire assez folle de cet Allemand atteint d'une maladie incurable qui a décidé d'utiliser l'IA pour créer un double virtuel à destination de sa famille.
Ouais, il s'appelle Michael Bommer, il a 61 ans, il est atteint d'un cancer grave, il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre selon les médecins et c'est un de ses amis qui travaille dans une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui lui a proposé la chose suivante, créer un double numérique, une réplique vocale de sa personne et de sa personnalité qui permettra à son épouse de continuer à discuter avec lui une fois qu'il sera mort. Pour ça, il est passé par un outil qui s'appelle Eternos Life, alors que n'importe qui peut utiliser, d'ailleurs c'est payant. La première étape, c'est d'enregistrer des centaines de phrases types, donc pour permettre à l'IA de cloner sa voix avec toutes ses intonations évidemment, et puis ensuite on va cloner sa personnalité, on demande de répondre à des questions sur sa vie, de raconter des histoires personnelles sur son parcours, ses idées, ses principes. Le but, c'est que lorsqu'on discutera avec votre double immortel, eh bien les réponses soient les plus cohérentes possibles avec qui vous êtes vraiment. Ce jumeau numérique, il existe déjà maintenant. Il raconte des anecdotes sur l'enfance de Michael Bommer, ses souvenirs de voyage à Bora Bora. Il souhaite bonne nuit à sa femme avant de dormir aussi. Alors il explique qu'il voit ça, lui, comme une sorte d'héritage numérique qui permettra aux générations futures de profiter de son expérience. Et son épouse, visiblement, est assez contente. Elle explique qu'elle pourra lui demander, quand il sera disparu, eh bien, de lui lire des poèmes ou de lui rappeler les bons moments vécus ensemble ou lui demander son avis éclairé sur différents sujets de la vie quotidienne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, c'est compliqué. C'est un peu glauque au premier aspect et en même temps, bah, la technologie existe. Désormais, visiblement, c'est très concret.
C'est dur de faire son deuil, du coup, si on garde comme ça la personne aussi proche.
C'est compliqué. Ouais. Mais des histoires comme ça, en fait, Anthony, on va en avoir plein dans les années qui viennent parce qu'il y a un vrai business là, qui est en train de se créer autour de ce qu'on appelle l'immortalité numérique.
Exactement. Il y a plein de services, de start-up qui se sont lancés. Donc là, je vous citais Eternos, on peut aussi citer Storyfile, Hereafter AI ou encore Rememory. Alors ça, c'est assez dingue puisque là, on ne se contente plus d'avoir un assistant vocal conversationnel comme je viens de vous le décrire. Là, on a carrément une modélisation numérique en image, un avatar virtuel avec lequel on peut avoir une conversation dans une salle d'exposition mémorielle. Donc tu as une sorte d'hologramme de la personne disparue avec laquelle tu peux discuter, mais de manière hyper réaliste. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et moi, je rejoins un petit peu Géraldine, Alors, je suis absolument pas psychologue. Le truc, c'est que on dit souvent que le deuil, c'est un processus, et c'est vrai que là, le fait d'avoir la personne virtuelle avec laquelle tu peux continuer de discuter, est-ce que ça ne freine pas ce processus-là? En fait, on manque de recul aujourd'hui. Il va falloir quelques années avant de comprendre vraiment toutes les conséquences que peuvent avoir ce genre d'outils qui vont se multiplier dans les années qui viennent.
Et il faudrait peut-être, que des psychologues peut-être encadrent ce genre de technologie, de recherche, mais à suivre donc, parce que ça va forcément se multiplier dans les années qui viennent. Il y a un vrai business autour de ça et ça pose beaucoup de questions morales. Allez, on va se détendre un peu à 5h54 sur RMC. C'est l'heure du bonus, un bonus très attendu puisque Géraldine, Julien Doré annonce un nouvel album.
Et ce sera un album de reprises. Alors, on n'a pas encore d'extrait, mais on a une playlist qui est déjà très alléchante, puisque Julien Doré va reprendre certains des plus grands tubes français. Tiens, par exemple.
Ah oui, carrément.
Ah, oui. Dans tous les mariages.
Il va aussi s'attaquer au L5, vous vous rappelez ?
Oh là là.
Ah ouais.
C'était les gagnants de Popstar, c'est ça ?
Ouais,
c'était
ça, ouais, exactement.
Il y en a une qui était partie, après, ça s'appelait Les 4 Frères, après.
Oh là là, on te dit. Le jeu de mots et tout. Non, mais la playlist me plaît pour l'instant. J'ai hâte d'entendre Julien Doré sur ses reprises.
Ouais, le chanteur annonce aussi, je cite, un retour vers le futur. Il va reprendre Mourir sur scène de Dalida, mais aussi La Kiffance du rappeur Naps, ou encore.
Les bananas, Philippe Risoli, cuitasse les bananas.
Voilà, il y aura aussi trois duos sur cet album. On n'a pas encore la date de sortie, mais les précommandes seront ouvertes à partir du 17 juillet. Et l'album, on le sait, s'appellera Imposteur.
Eh ben, on a hâte. Ouais. Non, mais c'est vrai.
C'est éclectique. Ah bah, ça va être quelque chose.
C'est marrant, du rappeur Naps au L5 en passant par Philippe Risoli. C'est vrai, c'est ça. C'est la playlist du prochain album de Julien Doré. Ben, on a hâte de l'écouter. Et donc, c'est à partir du 17 juillet, ça, qu'on pourra l'acheter. On attend impatiemment. 5h55 sur RMC. On va remercier Julien d'être passé, d'avoir rejoint la bande ce matin sur RMC. Vous aussi, vous venez au 32-16, hein, évidemment. On continue à débattre de cette question, de ces propos d'Emmanuel Macron qui brandit la menace d'une guerre civile si les extrêmes arrivent au pouvoir. C'est ce que dit le chef de l'État. Est-ce qu'il va trop loin ou au contraire, est-ce que vous redoutez des violences, une forme de guerre civile? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. On va continuer à en débattre. Et puis tout de suite, c'est le journal de 6h. Ça se passe à la radio, mais aussi à la télé. Vous pouvez vous brancher sur le canal 23 de la TNT, sur RMC Story, le journal de 6h avec à la une. C'est cru impressionnant hier soir dans les Alpes-Maritimes. Des habitations évacuées, des ponts emportés. On vous dit tout dans un instant sur RMC. Bon réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC. Il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct, votre journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Des dégâts encore avec les intempéries, cette fois dans le sud-est. La vallée de la Vésubie, touchée par d'importantes pluies hier soir, provoquant des crues et l'évacuation d'une cinquantaine de personnes. Il y a un risque de guerre civile en France. Voilà la dernière sortie d'Emmanuel Macron à propos de ce qu'il appelle les extrêmes à 5 jours des élections législatives.
Et notez qu'Éric Ciotti, qui vient de nouer une alliance avec le Rassemblement National, sera l'invité du face-à-face tout à l'heure à 8h30 face à Apolline. Mais dès maintenant, vous nous appelez au 32-16 pour poser directement vos questions à Eric Ciotti.
Et le foot, les Bleus à l'Euro qualifiés avant même de jouer en fin de journée, 18h contre la Pologne, le troisième et dernier match de poule.
Les intempéries ont à nouveau fait beaucoup de dégâts.
Oui, après le massif de Loisans en Isère durant le week-end, eh bien c'est la vallée de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes qui a été touchée par de fortes crues hier soir. Une cinquantaine de personnes évacuées à Saint-Martin. Vésubie, c'est le village de montagne déjà frappé par la tempête Alex, c'était il y a 4 ans. D'ailleurs, ces fortes pluies hier soir ont emporté les ponts provisoires qui avaient été construits à l'époque, Clara Gabillet.
Des ponts submergés, des routes barrées, des crues ont coupé l'accès au Boréon sur les hauteurs du village. Yvan est le maire de Saint-Martin-Vésubie.
Avec l'orage qu'on a eu toute la journée, les eaux sont montées. Hein. C'est le phénomène des cuvettes. La rivière est passée par-dessus le pont d'entrée du Boréon. Et il y a de la boue, il y a de la terre, des cailloux sur la route.
La commune fait partie de celles durement touchées par la tempête Alex en 2020. La crue d'hier a emporté plusieurs ponts provisoires. Et ce n'est pas la première fois, déplore Thierry Ingigliardi, adjoint au maire en charge de la reconstruction.
Avec des pluies normales, on va dire, un atout qui saute. Parce que les ouvrages définitifs ne sont pas faits. On n'est que sur de l'ouvrage provisoire. Maintenant, ça commence à suffire. Ça fait 4 ans qu'on est en galère. Les ouvrages ne sont pas terminés. cheminée, on attend toujours quelqu'un et les gens, franchement, ça devient très compliqué.
Au total, 45 personnes évacuées ont passé la nuit dans des locaux mis à disposition par la mairie.
À 5 jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron s'alarme donc dans un podcast d'un risque de guerre civile en France, avec les programmes, selon ses mots, de l'extrême droite et de la France insoumise.
Il y a l'extrême droite et ses associés. Je pense que c'est pas la bonne réponse pour le pays, parce qu'elle mène à la guerre civile, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et de l'autre côté, vous avez une extrême gauche, avec une offre qui est une forme de communautarisme, qui est un peu électorale. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière.
Alors, réaction immédiate des camps concernés, toujours là pour mettre le feu. Ça, c'est ce que dit l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à propos du président. Le RN, Jordan Bardella, ressort une vieille formule, écoutez.
Un président de la République ne devrait pas dire cela. Moi, je souhaite rétablir la sécurité pour tous les Français, y compris des Français qui, dans les territoires où moi j'ai grandi, notamment la Seine-Saint-Denis, ont le sentiment que l'État les a trop souvent abandonnés. Mais ce sont eux qui font peur aux Français. On est là à la fin du mois de juin, à un an des émeutes qui ont frappé très durement l'ensemble des villes, y compris nos villages. Ma volonté, c'est de répondre aussi à cette demande d'autorité.
Jordan Bardella qui a présenté hier le programme du RN en cas de victoire à ces législatives. Il promet de remettre l'autorité au cœur de l'action publique, ce sont ses mots, sans être précis sur le chiffrage économique de son programme. Et avec cette mesure qui retient l'attention, interdire aux binationaux d'occuper les postes stratégiques de l'État, ce qui est contraire à la Constitution, explique à RMC une constitutionnaliste. Et alors en attendant le premier des trois débats de la semaine entre les trois favoris des sondages ce soir, la campagne des législatives est marquée par l'agression à Bordeaux d'un militant écologiste muni de tracts. C'était vendredi dernier, le soir de la fête de la musique. La victime a porté plainte et la gauche accuse l'extrême droite, Nicolas Traîneau.
Dans sa plainte consultée par RMC, l'homme agressé raconte que deux jeunes hommes remarquent le paquet de tracts qu'il tient. Il lui lance « On va vous écraser », se dit supporter de Jordan Bardella. Lui répond sans violence et reçoit immédiatement un coup de tête.
Ils ont parlé de la France aux Français, de l'immigrationnisme.
Céline Papin, candidate du nouveau Front Populaire de la première circonscription de Bordeaux, dénonce ces violences.
Cette campagne est particulièrement tendue. C'est le signe d'un climat ambiant, d'une violence un peu libérée et complètement exacerbée. C'est inquiétant pour le débat démocratique.
Et elle estime que les responsables politiques d'extrême droite ont une part de responsabilité.
Quand on fonde son projet politique sur le rejet de l'autre, forcément, on fait monter la gradation de cette colère qui peut parfois justement être tenue incontrôlable.
Réaction de son adversaire du Rassemblement National, Bruno Paluteau.
Je condamne tout à fait cet acte. Nous condamnons toutes les violences d'où qu'elles viennent. Et les deux personnes là peuvent être tout à fait étrangères à notre mouvement. Je ne peux pas être plus clair.
La gauche en doute. Le parti Les Écologistes de la région écrit que malgré tous les efforts de dédiabolisation, l'extrême droite a toujours été porteuse de haine.
À 6h05 sur RMC, l'affaire avait choqué. C'était la semaine dernière à Courbevoie, le viol d'une jeune fille de 12 ans parce que juive, par trois adolescents. Eh bien, ses parents sortent du silence ce matin dans le journal Le Parisien, Julie Brault pour RMC, pour donner des nouvelles de leur fille et pour dénoncer un acte, disent-ils, clairement antisémite. Ce sont les mots qu'ils emploient.
Oui, plus d'une semaine après les faits, ses parents décrivent impuissant le quotidien de leur fille aînée. Un quotidien rythmé par, je cite, des réminiscences, des flashbacks et des réveils nocturnes. Ses agresseurs lui ont volé son enfance, s'indigne le père de famille. Déjà quelques mois avant le drame, son épouse se souvient alors que leur fille avait été harcelée à l'école, victime notamment de blagues sur la Shoah après les attaques du 7 octobre. Ses parents lui avaient alors conseillé de rester discrète sur sa religion juive, un conseil qui aurait poussé leur fille à laisser entendre qu'elle était musulmane à l'un de ses futurs violeurs. Quand il l'a appris, il en a déduit qu'elle était forcément pro-Israël et anti-palestinienne, déplore la mère de famille auprès de nos confrères du Parisien. Nous vivons un antisémitisme pesant. Notre fille, elle, l'a vécu dans sa chair, conclut finalement le père de famille.
Le calvaire de Julian Assange est terminé. Voilà ce que dit cette nuit la mère du lanceur d'alerte australien, fondateur de Wikileaks, incarcéré depuis 5 ans au Royaume-Uni pour avoir révélé des centaines de milliers de documents confidentiels. Un accord a été trouvé pour qu'il retrouve donc la liberté avant même un ultime passage devant la justice américaine demain. Le foot à l'Euro, il fallait encore rester jusqu'à la fin hier soir. L'Italie a arraché le match nul un partout contre la Croatie à la 98e minute pour se qualifier en huitième de finale. Les Italiens tomberont contre les Suisses. Aucun souci pour l'Espagne qui a fait tourner 1-0 victoire contre l'Albanie. Et avec ces résultats, eh bien les Bleus sont qualifiés eux aussi pour les huitièmes de finale. Avant même de jouer, en fin de journée, tout à l'heure, 18h contre la Pologne. Troisième et dernier match de poule dans le stade de Dortmund, célèbre pour son mur jaune que les supporters français rêvent de transformer en mur bleu, Valentin Jamin.
Ils seront plus de 11 000 supporters français dans cette tribune, soit deux fois moins que les fans de Dortmund d'habitude, mais l'idée est quand même de s'en inspirer.
La consigne, c'est de demain tous en bleu pour vraiment que ce mur jaune devienne un mur bleu.
Francis de l'association Les Baroudeurs du Sport.
En plus, les Polonais risquent de jouer en blanc, donc vraiment tous en bleu. On fera de notre mieux pour animer la tribune comme on l'a fait dans les derniers matchs. On sent vraiment de la motivation de la part des gens, de tout âge.
La fédération encourage aussi tout le monde à se parer de bleu, d'autant que cette année, un nombre record de suiveurs se déplace et le match de ce soir symbolise la bonne dynamique du public tricolore, pense Christophe, un habitué.
On trouve que ça s'organise de plus en plus. Il y a la Casa Bleu, il y a une fan wall, donc on sent que ça commence vraiment à prendre et on rattrape les Oranges par exemple qui sont très forts et les Anglais qui sont très présents aussi. On espère que tout le monde va venir en bleu.
Croisé en centre-ville, les fans n'ont aucun doute.
On va remettre le feu à la française, à la bonne franquette, on va être derrière l'équipe et on va mettre le feu. Ouais, il y aura un joli mur bleu. Ouais, ouais, on a confiance.
On va faire un bordel.
On va retourner le stade.
Mur bleu.
Pour pousser aussi les joueurs à être un peu plus convaincant sur le terrain.
Alors l'enjeu du match ce soir, c'est la première place du groupe. Pour l'instant, la France est deuxième derrière les Pays-Bas qui joueront à la même heure contre l'Autriche. On vivra tout ça évidemment sur RMC chez les Bretons de Fougères, dans le club formateur d'Eduardo Camavinga. Vous savez qu'RMC se délocalise pour chaque match des Bleus. Eh bien, il y aura Rotten sans flamme et l'after dans la foulée depuis Fougères. Et après les Bleus, on reverra l'Angleterre contre la Slovénie et le Danemark contre la Serbie. Ce sera 21h.
Ouais, notez bien, 18h, le coup d'envoi du match ce soir, France-Pologne, en jeu la première place du groupe. Et à 6h08, je sais que vous l'attendez, c'est l'heure du prono de Manu Le Chypre. Bonjour Manu.
Ça va?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Non, c'est ton prono qu'on veut.
Oui, on veut le prono. La France tremble ce matin.
Oui, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, ils vont gagner.
Voilà, c'est réglé. Ce soir, c'est gagné pour les Bleus.
Et puis, une petite pensée pour les Croates quand même, hein, parce que sur leurs deux matchs, là, ils n'ont vraiment pas eu de chance.
Ouais, c'est cruel, hein, ça s'est réglé à la 98e. Ça a obligé Manu à se coucher tard, mais il est en pleine forme.
Je le sentais qu'il allait se passer un truc.
Il est en pleine forme ce matin. Tiens, tout à l'heure, dans Manu Conso, Manu nous dira ce qu'il va boire ce soir devant le match. Hein,
je sais pas, vous préférez quoi, vous, vin rouge ou vin blanc?
Ah, moi, je suis rosé en ce moment.
Eh ben, vous êtes comme beaucoup de Français.
Ah, je suis pas le seul. On fera le point dans Manu Conso tout à l'heure, avec modération, évidemment.
Ah, avec modération.
Et on retrouve Quentin tout à l'heure à 7h pour un prochain journal, mais à 6h09, c'est l'heure de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Oui, tous les matins, vous repartez avec des cadeaux si vous écoutez bien toute l'info sur RMC. Mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Contre quel pays la France joue ce soir pour son dernier match de poule de l'Euro?
Bon, alors, on vient de vous donner la réponse, là. Franchement, c'est facile. Soyez rapide, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Et ça vaut le coup, parce qu'il y a un super radio réveil de la marque Muse à gagner si vous êtes tiré au sort. Et puis, vous serez avec nous à 6h20.
Exactement. Dans 10 minutes, le gagnant, la gagnante avec nous à l'antenne. Vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin. 6h13 sur RMC et c'est désormais l'école qui s'invite dans la campagne.
L'invité de Charles Matin.
Mon invité ce matin, c'est vous, Laurent Zamekowski. Rebonjour, porte-parole de l'association de parents d'élèves, la PEP, et donc l'école, oui, dans le débat des législatives. Après Gabriel Attal qui promet, je cite, un sursaut d'autorité à l'école. Hier, c'est Jordan Bardella qui a promis un big bang de l'autorité. Un sursaut, un big bang, c'est ça l'urgence. Les parents réclament un choc d'autorité.
Alors déjà, pour avoir de l'autorité, il faudrait déjà avoir des surveillants pour pouvoir faire régner justement l'ordre. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas assez. Donc peut-être qu'on va commencer par trouver les personnels, déjà commencer par les enseignants. Et peut-être après, on verra si on arrive à faire régner l'ordre.
Alors ça, en revanche, il y a eu peu d'annonces hier de Jordan Bardella sur les recrutements. On parle aussi de l'augmentation des salaires, beaucoup des enseignants. Jordan Bardella a dit, on va attendre, on verra, on va faire un audit des comptes. C'est ça pour vous l'urgence? C'est d'abord de recruter?
Évidemment, je veux dire, si vous avez des élèves qui n'ont pas d'enseignants, où est-ce qu'ils vont aller? Je veux dire, c'est pas une garderie l'école, on est là pour apprendre. Et donc ce sont d'abord les enseignants qui peuvent transmettre ces savoirs.
Donc ça c'est l'urgence pour vous, le recrutement. Jordan Bardella, lui, annonce plutôt d'autres mesures pour son choc d'autorité. Il parle d'une interdiction totale du portable jusqu'au lycée. Ça c'est nouveau, hein. Jusqu'à présent le gouvernement était sur le collège. Jusqu'au lycée, et il parle de la poursuite de l'expérimentation de l'uniforme, du vouvoiement obligatoire des enseignants. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des enseignants qui ne sont pas vouvoyés, qui sont tutoyés par les élèves?
En général, les élèves vouvoient les enseignants. Il peut arriver dans certaines situations où c'est un peu conflictuel dans l'établissement que des élèves se permettent de tutoyer, mais un élève vous voit sans.
Mais en théorie, c'est déjà sanctionné. Il n'y a rien de révolutionnaire à l'idée de dire désormais les élèves devront vous voir les profs. C'est déjà le cas aujourd'hui. Sur l'interdiction du portable, sur l'uniforme, tout ça, en fait, ça, c'est un peu la suite de ce qu'a annoncé ou déjà fait Gabriel Attal. Vous soutenez toutes ces mesures?
Alors, l'interdiction du portable, nous on a été moteurs lorsque c'était le cas d'interdire au collège. Après, en ce qui concerne l'uniforme, vous doutez bien que de dépenser 2,5 milliards par an pour faire des uniformes alors qu'on n'a pas suffisamment d'enseignants, ça nous semble un petit peu décalé. Parce que vous imaginez bien qu'une salle de classe avec des élèves en uniforme, sans téléphone portable et sans prof, ça sert pas à grand chose.
Oui, donc on en revient, oui, au fait que ce sont des mesures un peu cosmétiques à vos yeux, en tout cas que c'est pas là qu'il faut mettre les premiers milliards dans les uniformes, parce que Jordan Bardella parle aussi d'un uniforme à l'école. Donc là aussi, il faudrait, dès l'école primaire, il faudrait là aussi plus de budget. Autre mesure, en revanche, qui peut peut-être plus faire débat, il parle de la fin du collège unique. Aujourd'hui, on a un collège unique, même s'il y a des classes de SECPA, c'est ça qui existe déjà. Mais est-ce que ce serait un retour en arrière ou un progrès pour vous de mettre fin au collège unique?
Alors effectivement, ça fait longtemps, quoi, depuis que le collège unique a été mis en place, qu'on se repose à nouveau les questions. Aujourd'hui, il se pose la première question, c'est celle de l'orientation, qui est crucial, et d'où la mise en place par exemple du parcours à venir dès la 5e. Aujourd'hui aussi, malheureusement, si on n'a pas anticipé pour que les élèves arrivent réellement avec un projet, et ben très souvent, notamment quand vous arrivez en première, même avant en seconde, lorsque vous devez choisir vos spécialités, ben, vous savez toujours pas ce que vous voulez faire, et c'est un peu difficile aussi en termes de motivation. Donc il y a toujours cette interrogation, mais pour pouvoir mettre un terme au collège Judith, il faut avoir un véritable projet qui fait sens. Aujourd'hui, aucun projet n'a été porté de ce côté-là, et il suffit pas de dire on va mettre fin au collège unique pour résoudre tous les problèmes. C'est un peu facile.
Oui, je vous entends pas convaincu, en tout cas par le programme. Programme éducation nationale dévoilé par Jordan Bardella hier. En attendant, il va y avoir une rentrée. Peu importe le résultat des élections législatives, que ce soit le RN, le bloc central, comme on dit désormais, ou le nouveau Front populaire qui arrive en tête le 7 juillet, il y a une rentrée à préparer. Et la réalité, c'est que la rentrée, elle se prépare dès à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça tourne encore à l'éducation nationale, ou est-ce que tout est sur pause en attendant le résultat des élections?
Alors bien évidemment, heureusement, l'éducation nationale fonctionne. Je veux dire, les élèves sont en cours. Bon, certains passent le bac, et ainsi de suite. Après,
Je parle de la préparation de la rentrée. Vous nous dites là, l'urgence, c'est de recruter. Est-ce qu'il y a une vraie impulsion? Est-ce qu'on met les milliards sur la table en ce moment pour recruter?
Alors, la préparation
rentrée
de la rentrée, elle est déjà faite depuis plusieurs mois. Heureusement d'ailleurs, parce que si on se pose la question maintenant de faire la rentrée, après, on sait pertinemment que la rentrée de septembre sera pas meilleure que les précédentes. Malheureusement, on forme pas un enseignant en quelques mois, alors qu'il faut normalement 5 ans. Après, il y a des réformes qui ont été mises en place. On n'aura pas les fruits de cette réforme à la rentrée. Espérons peut-être celle la suivante, mais en tout cas, à la rentrée, on anticipe une rentrée difficile comme toutes ces dernières années.
Parce qu'il va falloir préparer cette rentrée au mois de juillet, sans connaître pour l'instant le futur ou la future ministre de l'Éducation. Est-ce que ça inquiète les parents? Est-ce que vous avez des remontées de terrain, d'inquiétude des parents dans ce contexte tendu, on va le dire comme ça, d'élections législatives?
Je crois que le contexte est tendu de manière générale. Après, les parents, spécifiquement en ce qui concerne l'école, aujourd'hui, ils sont focalisés sur cette fin d'année. Ils se sont pas encore forcément projetés dans la rentrée. Bien évidemment, depuis plusieurs années maintenant, les rentrées sont de plus en plus difficiles. On manque d'enseignants. Les élèves se retrouvent avec des fermetures de classe à la dernière minute, redispatchés. Certains doivent rouvrir. Donc tout ça est quand même assez anxiogène. Mais on va dire que chaque chose en son temps.
Chaque chose en son temps. Mais l'urgence, on l'a bien entendu, c'est plus le recrutement et les moyens que le vouvoiement ou l'uniforme, en tout cas du côté des parents d'élèves. Merci Laurent Zamekowski. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association de parents d'élèves, la PEP, et merci d'être venu ce matin réagir à ces programmes pour l'éducation nationale dévoilés par les différents candidats. Et clairement, c'est l'autorité, cette volonté d'autorité à l'école qui ressort, un sursaut d'autorité pour Gabriel Attal, Big Bang de l'autorité promis par Jordan Bardella. Mais de votre côté, vous réclamez plutôt des moyens. On l'entend bien ce matin. Merci d'être venu le dire sur RMC, il est 6h19.
RMC, Charles Matin.
Et dans un instant sur RMC, c'est Manu Conso.
Avec les Français qui boudent le vin rouge.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et à 6h21, Manu nous emmène au bistrot.
RMC, Manu Conso.
je vais le dire une fois pour toutes, avec modération évidemment.
Et je le redirai à la fin de la chronique, ne vous inquiétez pas.
C'est pas forcément conseillé d'ailleurs dès 6h21, mais on va parler pinard ce matin dans Manu Conso, parce que c'est une première, Emmanuel. Les Français boivent désormais plus de vin blanc et de rosé que de vin rouge.
Et oui, hein, si on regarde les ventes de ces trois grandes catégories de vin, on a effectivement les ventes de rosé et de vin blanc cumulées. Alors quand on dit vin blanc, c'est hors tout ce qui est pétillant, hein, hors crémant, hors champagne. Eh bien, effectivement, les ventes de rosé et de vin blanc dépassent désormais largement les ventes de vin rouge. En 15 ans, c'est un renversement de perspective historique, puisque songez qu'en 2010, les ventes de vin rouge, ça représentait à peu près 57% des volumes de vin vendus, en l'occurrence en grande surface, nous dit Circana. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est le vin blanc plus le rosé qui représente à eux deux 58% des ventes.
Alors comment on explique cette inversion de tendance ?
Il y a beaucoup de raisons. Hein. D'abord, les blancs sont perçus comme plus faciles à boire. C'est des vins qui sont moins complexes, moins lourds. On considère que c'est moins l'affaire des experts que les blancs et les rosés qui sont considérés comme plus goulayants. Voyez. Après, plus.
On va s'arrêter quand même après, sur cet objectif.
L'adjectif goulayant.
Oui.
Bah, c'est des vins faciles à boire, qu'on boit plus frais. En général, alors moins alcoolisé aussi, et ça correspond, oui. Ça correspond à une véritable tendance chez les consommateurs aujourd'hui de vouloir des vins moins alcoolisés. Et c'est vrai que les blancs et les rosés sont moins alcoolisés que les rouges, et notamment toutes les tentatives de vins où on fait baisser le degré aujourd'hui, ça concerne beaucoup les rosés. Après, il y a le changement de nos habitudes en matière de repas aussi, hein, qui compte beaucoup. On a des repas plus déstructurés, des casse-croûtes, du grignotage, les apéros dînatoires. Tout ça.
Avec la planche apéro, voilà. On ne prend pas forcément du rouge.
Là, c'est plus compatible avec des vins blancs et des rosés. Et puis aussi, on mange moins de viande, et notamment moins de viande en sauce. Or, le vin rouge, c'est le meilleur ami des viandes en sauce. C'est bien connu. Et puis, effectivement, même quand vous buvez un verre de vin comme ça aujourd'hui, bah, c'est vrai que ça se boit plus facilement que les vins rouges. Mais tout ça, encore rappelons-le, avec modération.
L'intarissable Manu Le Chypre sur le goulayant Manu Le Chypre ce matin dans Manu Conso. Allez, à 6h23, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on part dans la Loire, retrouver David qui a été tiré au sort. Salut David.
Salut Charles, salut Jardine.
Bonjour, salut David. Chauffeur-livreur, c'est ça, déjà au volant à cette heure-ci?
Ouais, déjà au volant, bah depuis 5h du matin, ouais.
Ah bah tout parfait, doucement. Comme nous, on prend l'antenne à 5h, donc c'est parfait. On démarre ensemble la journée dans le camion avec vous, David. Et vous avez tenté votre chance, vous avez été tiré au sort pour répondre à la question du jour.
Contre quel pays la France joue ce soir pour son dernier match de poule de l'Euro?
La Pologne.
Eh ben c'est gagné, bravo David, ce sera France-Pologne ce soir à 18h. Bon, on verra si les Bleus s'imposent, mais pour vous c'est gagné dès ce matin David.
Et vous avez gagné le radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller tous les matins avec RMC. Bravo David.
C'est magnifique, super et cadeau.
Et puis on va faire le doublé, on va vous envoyer aussi la coque pour smartphone RMC. On vous l'envoie aussi dans la Loire David. Et puis genre, je sais pas si vous aurez fini votre journée de boulot tout à l'heure à 18h. Si vous êtes encore dans le camion, pas de problème. Il y a RMC pour suivre le match David. Hein.
Évidemment. Les meilleurs commentaires sont sur RMC, on le sait.
Évidemment, ce soir, vous vivez le match sur RMC, soirée spéciale. Vous ne manquerez rien en écoutant RMC. David, bon courage pour le boulot, on vous envoie tous vos cadeaux. Et à 6h25, c'est le retour, c'est le comeback d'Apolline dans Apolline Matin. Salut Apolline.
Salut Charles, Géraldine, Manu et bonjour tout le monde. Excellent réveil avec à la une expression, deux mots. Guerre civile, oui, pour Emmanuel Macron, c'est ce que risque la France. Il est extrême, comme il dit, le RN d'un côté, LFI de l'autre, arrivait au pouvoir. En gros, c'est moi ou le chaos. On va réentendre l'extrait de cette interview diffusée hier où il dit effectivement que c'est lui ou le chaos et où il encourage donc à voter pour lui et contre les extrêmes. J'attends vos témoignages au 32-16. Est-ce qu'Emmanuel Macron joue avec nos peurs ou est-ce que vous redoutez, comme lui, très sincèrement, une guerre civile en cas de victoire du RN ou de LFI et des alliés de gauche? Est-ce que vous craignez des violences au soir du 7 juillet? Est-ce que ces violences, vous les ressentez déjà? Est-ce que vous ressentez cette tension qui pourrait éclater dans le pays. Et puis deux invités sur ce sujet, Alain Boer, le spécialiste des questions de sécurité, il sera l'invité d'RMC à 7h40 et puis Eric Ciotti à 8h30. J'en profite aussi pour vous dire que le 32-16 vous est ouvert. Si vous avez des questions pour Eric Ciotti, vous n'hésitez surtout pas, en plus de vos témoignages, bien sûr. On sera aussi à Saint-Martin-de-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, très durement touchés par les inondations en 2010. Eh bien, c'est reparti. Les ponts qui ont été construits depuis n'ont donc pas résisté aux inondations d'hier. Il y a beaucoup de dégâts. Là encore, si vous êtes sur place, n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Nous sommes le mardi 25 juin. Apolline Matin, c'est parti. À tout de suite pour la météo et le journal de 6h30.
RMC, Apolline Matin.